Alors, comment veux-tu continuer?
Mais comment voulez-vous?
Mais comment tu disais que tu avais d'autres personnes qui pouvaient témoigner.
Oui.
Et surtout, je crois que ce qu'on voudrait, c'est maintenant passer plus aux pratiques.
Oui.
Que tu nous dises un peu, voilà, traverser vos peurs. Comment est-ce que tu inities un truc comme cela? Tu as parlé de bidule. Comment est-ce qu'on met en place, en fait, ce type de dynamique dans une communauté?
Ah. Oui, alors, je vais répondre à ça, et puis quand même, je demanderai une illustration. Il y a la rue du Sceptre à Excel est bien représentée ici, et voilà, ils diront comment et quelle dynamique s'est déclenchée là-bas. On peut aussi vous parler de comment, par exemple, nous avons rencontré les femmes de Save Belgium, Society Against Violent Extremism. On peut vous illustrer toutes sortes de situations. Mais ta question porte sur comment opérer la transformation. Et je dirais que une conversation un matin à la maison, ma femme me dit « Je ne comprends pas pourquoi tu voyages dans le monde pour un truc aussi simple ?» Évidemment, elle voudrait bien que je reste à la maison, tu comprends, moi aussi, mais quand même, j'aime bien voyager aussi, il faut dire. Mais en fait, vous pouvez commencer, commencer ou explorer, ou continuer, ça dépend de là où vous vous situez vous-même. Ce soir, en rentrant, il n'y a aucun secret. C'est-à-dire. C'est une question de regard, c'est pas autre chose. Donc il n'y a rien d'autre que ça. À mon avis, au départ, c'est ça. Et nous avons ça, on n'incite pas dans nos formations ou dans le partage cette approche, mais souvent les gens disent bah, tiens, j'ai essayé cette appréciation chez moi, hein, et ça a déjà marché. Et bon, avec mon ado, Dieu sait. Hein, on était en pétard, mais je me suis rendu compte que j'ai jamais dit ce que j'appréciais. Et donc, ça, c'est un truc concret qu'on peut faire chacun, parce que personne ne le fait systématiquement. Nous sommes tous, comment dire, il faut vraiment une démarche consciente, continue, pour arriver à rester dans l'appréciation. Alors, l'appréciation, c'est pas gonfler les forces, c'est simplement les voir. Il ne s'agit pas d'autre chose, il ne s'agit pas de commencer à peindre la situation en rouge. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Simple, mais pas évident. Alors, donc, il y a un lien, mais que nous ne. Bon, voilà, je pense qu'il y a un lien quand même avec. En tout cas, pour moi, il y a un lien. Voilà, je vais dire ça comme ça, avec la pratique de la méditation. Ça, c'est évident. Parce que dans la mesure où on est conscient de ses réactions, qu'on remplace ses réactions par une réponse, c'est-à-dire...
Une action.
Oui. Ah oui, évidemment. Si je dis, tiens, je suis de nouveau en prise à la colère, je suis de nouveau en train de dénigrer l'adversaire, la personne qui m'a agressé, voilà, alors que tout simplement, ben, c'est elle, c'est pas moi. Donc, évidemment que ça aide à rester, disons, neutre, disons, dans toutes sortes de situations. Il y a le fait que, ça nous apprenons, c'est dans la pratique de l'accompagnement des communautés, évidemment, nous allons vers des conflits, c'est évident, puisque tout le monde s'exprime, etc. Et ce qu'on voit bien, c'est que, je dirais, contrairement à nos amis africains, qui savent gérer ça, nous éteignons ces conflits. Nous avons tendance à chercher à les éteindre, à les étouffer. Alors que j'ai appris, au Congo, dans les discussions communautaires que j'avais lorsque j'étais dans Sachet, on doit pouvoir laisser arriver le conflit jusqu'au moment où il est mûr. Au moment où il est identifié. Alors là, on peut mettre scalpel, le bistouri. Mais il me semble que trop souvent, est-ce que c'est notre éducation, je ne sais pas trop d'où ça vient, nous avons tendance à éviter, à éteindre le conflit. Ça, c'est...
Il y a peut-être quelque chose de judéo-chrétien.
Probablement. Hein, ouais. Donc, il y a cet aspect. Alors, après... c'est quelque chose que nous faisons, et vous êtes tous invités. La démarche que nous entreprenons, c'est nous, Centre Initial, qui un jour, à notre association, dit, tiens, j'étais le long de la piscine en Provence, et je me suis dit, mais je vais m'appliquer ça moi-même. Voici mon rêve, voici mes pratiques. Et vous, quelles sont-elles ? Individuellement, cette fois. Et donc, nous avons fait ça. Il y a un groupe qui fait ça depuis 4 ans, je crois. Nous nous réunissons tous les derniers mardis du mois, sauf le mois de maintenant. Mais sinon, c'est vraiment systématique. Et ce que nous faisons, c'est tout simplement partager notre expérience avec nos pratiques. Donc, il n'y a aucune inquisition, aucun conseil. Nous partageons notre expérience. Ce que nous faisons aussi au niveau communautaire. Et c'est passionnant. Donc ça, c'est quelque chose de concret, disons, auquel vous êtes invité. Comment traverser ces peurs, puisque tu poses directement la question. Alors justement, c'est quand même assez incroyable que le phare de la conscience fait fondre ces éléments-là, pour moi en tout cas. Donc si je me rends compte que j'ai peur, j'en rigole, quelque part. Ça va. Si je me rends compte que je suis frustré pour un truc, si je suis suffisamment conscient de ce sentiment, il part. Mais là, nous sortons, si vous voulez, de ce que nous partageons en général. Mais puisque tu me poses la question, je réponds. Et nous nous rendons bien compte aussi que nous devons renforcer cette dimension. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'interaction entre l'individuel et le collectif. C'est pas le collectif, l'individuel, comme deux choses séparées. C'est au fond la relation entre les deux. Hein? Bon, là, on va vers la médecine quantique ou la physique quantique. Nous ne sommes pas des entités séparées. Et donc, nous pouvons voir le monde comme des entités séparées, merci Descartes, mais nous pouvons aussi le voir comme un ensemble de relations. Lorsque nous le voyons comme ça, ben évidemment, l'individuel et le collectif se retrouvent. Et donc, en jetant notre regard là-dessus, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de collectif sans transformation personnelle. Mais ça commence, à mon avis, par ce choix délibéré d'apprécier et d'être dans l'instant, d'être dans ce qui résonne au moment présent. Bon. Alors, c'est aussi se méfier, si on va aller plus loin, c'est se méfier de tout ce qu'on a appris. C'est donc la déconstruction. C'est d'accepter, en tout cas c'est une de mes pratiques, je n'accepte aucune, je teste toute vérité, enfin celle dont je prends conscience, vérité donnée à l'aune de mon expérience.
C'est ce que disent beaucoup de maîtres des saints.
En tout cas, peut-être, mais en tout cas, j'essaye de le faire. Voilà. Une autre chose où nous sommes quand même très, très forts, je pense, c'est que nous tombons là-dedans, c'est que, il me semble, par exemple, ayant vécu aux États-Unis, en Belgique en particulier, nous avons tendance à personnaliser le conflit tout de suite. Donc, ah oui, mais il est comme ça. Hein? Non, il y a un conflit, asseyons-nous. Mais ne disons pas, c'est parce que, et pas fondé sur la personne. Donc, et méfions-nous des hypothèses que nous formulons au sujet d'autrui. Ça ne nous amène nulle part, vérifions-les. Au moins, par le dialogue. Et ça me paraît quelque chose de fondamental. Voilà. Mais maintenant, place au sceptre, si vous voulez bien. Alors, avant que vous partez tous, on arrête à quelle heure ?
10h30.
Ah oui ? Vous êtes prêts à rester jusqu'à 10h30 ? Oui ? Ça va ?
Ça va très vite, tu sais.
Au plus tard. Allez, très bien. Les 10 dernières minutes, ce seront des pistes concrètes pour ceux que ça intéresse d'explorer plus l'approche. D'accord ? Parce qu'ici, bon, on ne peut pas. Mais donc, voilà. Allons-y. Qui parle ? Madame la Présidente, Lisa,
Moi, si tu me demandes de parler, je ne vais pas parler de la Médusa tout de suite.
Oui, tu parles de ce que tu veux.
Plutôt parler, peut-être que Julien a envie de parler, parce que je vois que...
Surtout essayer de parler plus fort.
Oui,
il faut. Viens ici, viens ici. Viens ici. Viens ici, Lisa, viens. Et viens là.
Et ce sera plus facile pour que tu...
Viens près de moi.
N'aie pas peur.
Si.
Traverse ta peur. Traverse ta peur. Et... Non, non, non.
Non, alors, si on doit parler de peur, effectivement, je vais parler de ma peur, de peut-être une grande peur, ou alors, ça m'éveille en tout cas, l'histoire de la peur. Une grande peur qu'on a tous subie il y a quelques mois, et moi et mon mari en particulier, parce qu'on était le 22 mars à l'endroit où il ne fallait pas être. On était à Zaventem avec toute la famille. Et j'ai depuis rencontré beaucoup de gens. Alors on était vraiment tout proches, on était vraiment à 20 mètres des bombes. Et j'ai rencontré beaucoup de gens depuis qui parle de cet événement comme quelque chose, bon, qui se pose évidemment en victime, mais il y en a eu beaucoup, donc effectivement il y a quelque chose de très grave qui s'est passé, etc. Mais je pense qu'on a eu une démarche, nous, et je pense que si je dois parler de mon expérience avec le SALT et avec, avec la constellation, avec les gens que j'ai rencontrés, au cours de cette expérience, c'est finalement la traversée de la peur, parce que enfin, moi je n'ai pas du tout senti cette peur, ni à ce moment-là, ni maintenant, ni après, ni... Et je me rends compte à quel point les gens ont une résilience différente face à cet événement, et une espèce de découverte de la peur. Donc ça résonne beaucoup ton histoire, enfin, de parler de la peur, parce qu'effectivement, nous, on a vécu ça de manière je pense que ça m'a aidé, tout ça m'a aidé à traverser tous ces événements et les traverser de manière tellement positive et tellement... On s'est vraiment mis en témoin d'un événement et on a eu envie de comprendre, de partager, d'être là. Enfin, je ne sais pas comment vraiment bien l'exprimer, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on a traversé ça de manière belle et sereine, je pense, grâce au SALT.
Tu me permets de partager un truc. Donc, Facebook, nous y étions, mais tout va bien. Et ouf!
C'était mon message. Ouais.
C'était le message de Lisa sur Facebook. Puis, je suis un grand adepte de la sieste. Je sors la sieste le lendemain, un mercredi. Je reçois un message de Lisa. Et Lisa dit, viens, on voudrait causer. Julien et moi, on voudrait causer. Et Salia sera là aussi. Qui est Salia ? Alors nous avions rencontré Salia lors de ce que nous appelons une visite sainte. Salia a perdu son fils en Syrie. Elle a lancé Save Belgium, Society Against Violent Extremism. Et nous, j'ai toujours pensé que on ne devait pas oublier ces familles. Ces familles souffrent. Bien sûr, les victimes souffrent, mais les familles de ceux qui sont partis souffrent aussi. Qu'est-ce que nous avons de cette souffrance? Et donc, nous sommes parvenus à rendre visite à cette organisation. Nous étions, disons, 10 de constellations et 10 de personnes dont le fils avait disparu, dont le fils était mort, dont les filles n'étaient pas là, dont les enfants sont en prison. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit, ben, écoutez, on ne va pas une fois de plus, on sait que vous souffrez, on ne va pas retourner le fer dans la plaie. Faisons connaissance. Mettons-nous à deux, racontons chacun une histoire dont nous sommes fiers. Et énonçons, chacun l'un pour l'autre, les forces que nous voyons dans l'histoire de l'autre. On avait à peine fini ça, une des personnes visitées dit « Mais c'est incroyable, cette visite !» Elle a dit, clairement, spontanément, on sent l'amour dans la pièce. Et puis on a dit, nous sommes tous belges. Ici, nous sommes tous belges. Quel est notre rêve pour notre Belgique? Et quand il a appelé, j'ai fondu en larmes. Et mon épouse dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décès. Je dis, non, c'est trop beau. C'est trop beau que ce couple, Julien qui est là, et toi, vous invitiez en même temps, moi, et Salia, la maman d'un terroriste, qui vient avec sa fille et qui joue avec votre fille. Pour moi, c'est l'essentiel de ce que nous cherchons. Voilà.
Ce qui transparaît dans ce que vous dites maintenant, dans ce que vous avez dit avant, pour revenir à la question de votre question, c'est une forme de candeur. Mais je veux dire dans le meilleur sens du terme. Ce que je retiens, c'est que ça marche quand des gens candides vous appellent, même s'ils ne sont pas nombreux, et c'est là-dessus que votre mouvement s'appuie. Comment vous faites quand vous avez affaire, quand vous devez gérer la non-candeur, quand une partie du problème, quand dans une vision bouddhiste d'une chose, la source du problème, c'est le manque de candeur, donc il faut éradiquer ce manque de candeur, comment on fait?
Qui veut m'aider? Tu veux la question?
Non, mais.
Non, mais on va répondre.
Sur l'impression de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis quand même quelques mois, et ce qui se passe aujourd'hui, principalement en Belgique, avec toutes les histoires de fric, de machin, c'est de ça dont on parle.
Oui.
Donc, évidemment qu'il y a des gens très honnêtes et candides, et puis, mais une partie du mal réside dans l'extraction de la non-candeur quelque part. Donc, comment on fait?
On était obligé de parler plus du film ce soir, Jean-Louis. Mmh. Non, mais pour rebondir sur ce qu'on a dit, qui est une très bonne question, effectivement, j'en ai une qui s'en rapproche, qui peut être traitée en même temps. Est-ce que vous êtes vu un peu par le politique comme des concurrents, comme des empêcheurs de tourner en rond, parce que quelque part, vous leur prenez un peu des parts de marché. C'est-à-dire que ces gens-là se positionnent comme des facilitateurs, mais finalement, c'est un peu le travail du politique. C'est de faciliter la vie en société. D'ailleurs, monsieur, je ne récite pas, je l'ai déjà vu plusieurs fois, peut-être.
Non, mais c'est le consultant du politique, à l'entendre comme ça. Non,
je ne crois pas.
Non. Ah, vous n'y croyez pas? Non,
non, je ne crois pas que je sois consultant du politique.
J'aimerais tracer la voie vers une.
C'est un substitut. Moi, je serais par exemple le bourgmestre.
Je vais répondre.
Il demande de vous écouter.
Non.
Non, pas.
Même agrégation. Dans ils ont peur.
Voilà. Moi, j'ai assisté à
l'heure de Géant. Vous répétez ça, là, j'aurai un coup de fil. Mais...
J'ai assisté à l'heure de Géant Grédoisseau. Je me dis, étant bourgmestre, enfin, je serai bourgmestre, une des peut-être des sentiments naturels que j'aurais, c'est mais qui c'est ceux-là, qui viennent, ils n'ont qu'à aller parler au conseil communal s'ils ont des idées.
Non,
je verrai ça avec méfiance. Mais bon, on en revient un peu à la même question qui est la candeur, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont rétifs à ça.
Je vais essayer. C'est une excellente question et on est évidemment, là à le mot c'est de cutting edge. On est comme des funambules dans cette histoire. Hein. Mais une première chose, je peux vous dire, il y a une pétition qui vient de sortir à Vaz, qui est une pétition agressive par rapport à Trump. J'ai regardé ça et je ne signe pas. Pas que je suis d'accord avec ce qu'il fait, Mais est-ce que, dans, est-ce que en étant adversaire, on va à quoi que ce soit? En plus, il y a quand même, bon d'accord, moins d'Américains qui ont voté pour lui que les autres, mais quand même, est-ce que vraiment c'est en clashant qu'on va y arriver? Je ne crois pas. Bon, attendez, je finis, puis. Hein. Ensuite, bon, nous avons ici des gens qui ont vécu des expériences politiques que moi je n'ai pas, qui j'espère vont pouvoir s'exprimer bientôt. mais je vais quand même. Mais pour vous dire, alors ça, je ne dirais pas que c'est une vision. On est libre dans Constellation, donc on y va. Chacun porte, si vous voulez, sa conviction. Et je vais vous dire la mienne et ma motivation à Grégoisseau. J'ai lu le bouquin de Van Reybrouck, Non aux élections. Je trouvais ça formidable. Non aux élections, il rappelle que l'agora chez les Grecs, mais aussi ensuite dans les villes italiennes et espagnoles jusque récemment, avait une chambre élue au hasard qui, elle, élisait les politiques pour gérer quoi? Mais le programme développé par les citoyens. Ah! Eh bien, au premier Agora, donc, je vous ai raconté, est-il possible, est-il facile de se rencontrer avec Grégoisseau? Que pourrons-nous faire, nous? Walid Bouchacho, le gars que on a tous vu à The Voice, hein, et que nous écoutons tous les après-midi dans C'est presque sérieux, qui est un gars de Grégoisseau, qui facilite gracieusement cette affaire. Il dit, mais toi, Jean-Louis, tu vas, bien entendu, tu vas te présenter aux élections. Et j'étais très content de cette question, en disant, il n'en est absolument pas question. La démarche, notre démarche, quel que soit l'enjeu, notre démarche est politique. En ce sens que nous visons la réappropriation par le citoyen de l'espace public. Mais il n'est pas question qu'elle devienne politicienne. Donc, je vous dis que notre intention stratégique à Grégoisseau, on verra bien, on risque de se casser la gueule, pour des raisons qui sont assez manifestes, mais tous les 3 mois, nous allons examiner toutes sortes d'enjeux. D'accord ? Qui sont venus d'où ? De ces conversations et de notre enquête sur le bonheur communal brut. Nous avons une base empirique. Donc voilà les soucis que les gens ont pour le bien-être à Grégoisseau. Prenons-les les uns après les autres. Et voyons ce que nous pouvons faire avec nos ressources. 2018, monsieur, vous prétendez nous servir. Bon, très bien, voici notre programme. En quoi allez-vous soutenir notre programme ? Nous ne sommes pas intéressés par le programme de votre parti, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre programme et comment vous allez le soutenir. Voilà, alors on va dire, il va nous promettre, il ne fera plus après. Oui, mais attends, on sera là. On sera là. Donc ça, c'est le renversement. Mais je peux vous dire qu'au premier G100, nous avons invité formellement l'ensemble du conseil communal, personne n'est venu. Pour écouter, on s'était préparé, que dalle, personne n'est venu. Donc, il y a manifestement un fossé à combler. Alors, par contre, au premier Agora, 2 élus sont venus, membres du conseil communal, qui, dans les conseils, se détestent royalement, mais la bienveillance qui était là a fait que on a senti une honnêteté dans ce qu'il disait. Voilà. Et une cordialité. D'ailleurs, il n'aurait pas pu faire autrement. Ça aurait été perçu comme inacceptable, compte tenu de l'ambiance qui était là. Anne, d'autres étaient là, n'est-ce pas ? C'était ça. On se marrait, ceux qui on les connaissait, de bon, opposition, majorité, tout ça, aussi. En privé, pas mal de critiques à Tominem, un sport national en Belgique, et là, non. Non, c'était courtois. Alors, est-ce que c'est totalement candide? Eh bien, je dirais oui. Mais c'est lié aussi au cadre, c'est-à-dire qu'on a créé un cadre aussi au G100 et tout ça, on essaie de créer un cadre où la bienveillance règne, où on se sent en sécurité. On peut ne pas être d'accord. Voilà. Oui, dit Célicia.
J'aimerais juste ajouter oui, vas-y. Quelque chose.
Célicia de notre...
De constellation. Juste envie d'ajouter quelque chose parce que la question est judicieuse et que ça revient aussi à la question que vous avez posée tout à l'heure en fait sur la mise en lien en fait, comment est-ce que ça se fait, etc. Et j'aurais juste envie de partager vite fait l'expérience de Madagascar. Parce que là je pense que c'est une expérience que, fin 2015 on a été invité, enfin bien avant mais finalement ça s'est concrétisé fin 2015 par UNICEF Madagascar à travailler au niveau national avec les acteurs, donc les acteurs de la santé, de la protection de l'enfance, un petit peu dans tous les secteurs, sur un outil qui était utilisé par l'ensemble des acteurs, qui était le dialogue communautaire. Et j'aimerais vous partager cette expérience parce que je pense que dans la conception même du travail qu'on a fait là-bas, on s'est posé cette question. Et en fait, la manière dont on a décidé de fonctionner depuis le début, c'est... donc, on est arrivé sur place, et comme on fait toujours avec le site, c'est qu'on commence par des visites appréciatives. Et on s'est dit, on va arriver, et plutôt que de venir dire, voilà, nous sommes des experts en facilitation et des dialogues communautaires, ça devrait se faire avec l'approche site, on s'est dit non. On va aller sur le terrain, observer comment les acteurs de terrain font du dialogue communautaire à Madagascar. Et pour faire ça, on a créé des équipes de travail. Et dans les équipes de travail, on est allé dans le sud, dans deux régions, à Nusia Tsumwanjepana. Et dans chaque équipe de travail, il y avait deux coachs de constellation, un représentant d'UNICEF. C'était dans le département de la communication pour le développement. Et deux représentants du gouvernement au niveau central, donc du ministère de la Jeunesse et du ministère de la Communication. C'est-à-dire qu'on a eu 2 semaines de travail sur terrain, en brousse, avec des personnes qui avaient des rôles vraiment clés au niveau du gouvernement malgache et au sein d'UNICEF même. Et cette expérience a été juste extraordinaire. Cette expérience de justement, plutôt que de venir, donc on ne venait pas en évaluateur, on venait vraiment voir, mais justement, quelles sont les forces en présence, donc quelles sont les ressources qui sont déjà présentes dans leur manière de fonctionner, qu'on peut ensuite amener au niveau central. Et en fait, on a appliqué l'approche par la suite avec tous les secteurs ministériels pour se dire, ben voilà, quelle est notre vision pour les communautés malgaches et comment est-ce que le dialogue communautaire peut servir cette vision. Ben, j'aurais envie de partager que la semaine passée, on a fait un événement comme ici, mais à Genève, près de Genève, à Ferney. Et il y avait Sam Touch qui était dans ma petite équipe quand on était sur le terrain à Madagascar, donc qui fait partie du ministère de la Jeunesse à Madagascar, qui est venu raconter, donc un an et demi plus tard, qui est venu raconter qu'en fait, ils ont formé des gens à l'approche harmonisé de dialogue communautaire qui est fortement infusé du CELT dans la plupart des régions, moins 2 régions de tout le pays, qu'il y a près de 600 personnes clés qui ont été formées et qui aujourd'hui pratiquent cette approche au niveau national. Et pourquoi est-ce que ça a été possible? C'est vraiment justement parce qu'on est persuadé que la candeur dont vous parlez, elle est naturelle en fait. Elle est naturelle et elle est au fond de chacun. Mais par contre, c'est ce cadre dont Jean-Louis parlait qui lui permet de s'exprimer. Comment est-ce qu'on peut être avec les individus, avec les gens sur le terrain, en prise avec l'expérience directe? C'est là qu'elle se passe en fait, la transformation. Il n'y a pas besoin de discours, il n'y a pas besoin, c'est vraiment juste en expérimentant. Et je me souviendrai toujours d'un moment, par exemple, où on était... C'était magnifique, on était sur le terrain, donc à Tumanjef, dans une communauté, l'agent communautaire, donc l'acteur local, voulait parler de la grossesse prématurée, donc les femmes mères, etc. Et il arrive là, il s'installe, et il dit, bon, est-ce que les femmes mères, c'est un problème ici dans votre village? Et tout le monde se regarde, font non, pas du tout. Autour de l'arbre, on était assis par terre, et autour de l'arbre, il y avait au moins 4 jeunes filles, je dirais entre 13 et 16 ans, avec un bébé. Et le monsieur était là, Ah, alors on va parler de l'éducation des enfants. On a complètement embrayé sur autre chose. Mais alors, je vous parle de ça parce que c'était magnifique, parce que un des facilitateurs locaux donc, du ministère de la Communication qui était avec nous depuis le début, Modeste, un monsieur extraordinaire, qui était avec nous, après, donc, on avait l'occasion de parler avec les communautés séparément et puis avec les facilitateurs séparément. Et donc, on commence à discuter avec, avec les mamans, d'abord, avec les femmes, en général, toutes les femmes. Et puis Modeste regarde la femme, et puis il la regarde et puis dit, mais madame, plutôt que de nous parler de vos problèmes, est-ce que vous pourriez me parler de votre rêve pour vos enfants ici? Et là, mais d'un coup, toutes les femmes se sont mises en même temps à s'exprimer. Donc nous, on ne comprenait plus rien. Hein, ça partait dans tous les sens, on avait gagné. Mais il y a eu un... Voilà, l'énergie, le niveau d'énergie a fait comme ça, et d'un coup on était dans une discussion candide, en fait, vraiment, vraiment candide, et une transformation, enfin une, Modeste, voilà, le terrain était très fertile déjà au départ, mais cette question était tellement puissante, et aujourd'hui Modeste, voilà, il est un des premiers à former des gens là-bas, donc voilà, c'est juste pour donner un exemple de... C'est vrai qu'il faut penser, je pense, dans les...
Il ne faut pas faire le malin.
Ouais. Ouais. Mais est-ce qu'on a répondu à ta question, je crois?
Est-ce que toi, tu as répondu en disant, est-ce que tu as déjà vu des réticences du politique dans ton expérience?
Non, j'ai répondu, c'est clair.
Comment?
Oui, bien sûr. Mais j'en ai parlé.
Hein? Oui.
C'est évident que... Mais je dois aussi dire qu'on a trouvé, par exemple, à Vilvorde. Hein? Vilvorde, nous sommes invités sur un quartier par contact interpersonnel. Tiens, invitez ces gens parce que, tiens, ils font autre chose. Voilà. Quelqu'un du CIRE ou je ne sais plus où, et au Centre pour l'égalité des chances, qui connaît quelqu'un qui travaille à Vilvorde et au quartier Faubourg, ça bardait. 70 nationalités qui vivent très bien, mais les nouveaux arrivants de Molenbeek foutaient le bordel. Voilà. Drogue dans le quartier, violence, etc. Et bien entendu, en bon belge, les amis de Faubourg disent « Que fait la commune ?» Hein ? Il y a... « Que fait la commune ?» Ça ne va pas. Et donc, avec beaucoup de travail, un ami, un certain Jan Somers, beaucoup de bons, et on arrive à organiser une fête. Eux arrivent à organiser une fête à Faubourg. De cette fête sort le rêve. Là, on ne parlait pas, on n'y a assez de monde, mais lors de la fête, les gens ont dessiné et fait des photos avec leur dessin de leur rêve. Le petit groupe qui s'est occupé de ça a transformé ça. Alors, fast forward, 2 ans plus tard, conseil échevinal. On me demande, il me reste né dans l'ens, d'expliquer l'approche. Parce qu'ils sont intéressés pour l'ensemble de Vilvorde. Madame Fatima, j'ai oublié, m'interrompt. Elle dit, écoutez, c'est bien simple. Avant qu'ils viennent, c'était que fait la commune. Là, ces gens se sont mis à travailler. Et quand ils disent que fait la commune maintenant, on le mérite. Oui, elle était cash. Et on continue. Ce qui s'est passé, c'était que Céline Vanest, une Flamande qui habite à Biet, a parlé dans son meilleur flamand pourquoi ce que le Gessin lui avait donné. Le Gessin lui avait donné la force de traverser ses peurs et de commencer à mobiliser son quartier sur toutes sortes de trucs, les jeunes, etc. Elle raconte ça. On termine et la proposition est d'accompagner tous les quartiers de Vilvorde dans ce processus où les gens se prennent en charge pour réaliser leurs rêves. Avec l'idée que dans 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus, on refédère la vision de Vilvorde Herlift. Et Hans Wolter a dit une chose, un truc, Hans Tekerk, ce qui veut dire infectieux, quoi, c'est contagieux. C'est tout, boum, contrat terminé, on y est. On travaille au niveau institutionnel avec une ville, la ville de Lviv, c'est pas un petit truc, quoi. Hein? Donc ça veut dire que, de nouveau, n'attendez pas de nous, hein, et voilà, l'approche ne nous permet pas de mettre tous les politiciens dans le même panier, évidemment. Et chacun, exerçons-nous à avoir les forces dans chacun. Parce que c'est de là que viendra la transformation. Et l'autre chose, c'est clairement l'immersion dans l'expérience. On a d'autres exemples, ils sont dans le bouquin, de gens qui sont de responsables à assez haut niveau, du FNUAP par exemple, du Fonds des Nations Unies pour le Développement, qui après 3 jours disent « Nous, on croyait qu'on était un gars du Bangladesh, on croyait qu'on était trop pauvre parce que, pour agir pour, dans notre pays, maintenant on change. C'est clair qu'on peut y aller dans notre propre pays. Et incidemment, si vous voulez travailler avec les villes d'Indonésie, la première visite est payée par le FNUAP. Après, on verra. » Et donc, le mois suivant, on avait une invitation à toutes les villes qui étaient là. Et on a travaillé avec Pontianak et d'autres villes d'Indonésie. Yeah. Donc, voilà. Et cette immersion, c'est ce que... Oh, c'est Lisa. Ah, toi, tu... Évanescente. Là, une fois là-bas. Et ce que je voulais dire, c'est que... j'ai oublié.
Tu voulais parler pour le mec.
Ah, oui, c'est...
On va parler du sceptre.
La rue du sceptre, en faisant très rapidement.
Oui, rue du sceptre, raconte.
Je ne sais même pas si c'est lié aux attentats, mais je ne crois pas du tout. Mais donc, on se revoit en voisin, on est quelques voisins ici, la rue du sceptre, avec des projets. Voilà, des projets, c'est faire un jardin public pour les habitants de la rue du sceptre, faire un four à pain, utiliser des voitures partagées, voilà, là, une voiture, il a une disposition, enfin, toutes sortes de projets, très bien. Et alors, ce mouvement est en train de naître, même pas encore de grandir. Et alors, je vais pas être très politiquement correct, mais j'ai envie de dire une chose, et je l'ai déjà dit à une des premières réunions, c'est qu'on se rend compte qu'on touche en fait toujours un peu les mêmes types de personnes.
Oui.
Qui seraient, je les qualifierais un peu comme nous, de un peu bobos, c'est-à-dire des gars qui ont... J'ai bien vu à la réunion de dimanche, il y a 2 semaines, on était tous plus ou moins du même niveau d'études, plus ou moins pas du même âge, ça c'est quelque chose qui a pu être transcendé heureusement, plus ou moins de la même couleur, plus ou moins de la même origine. Moi, en rentrant des attentats, je me rappelle, et je vous dis, je vais être politiquement correct, je ne veux pas faire d'amalgame, mais on doit être direct, on n'a pas 2 heures. On vit dans la rue du Sceptre, donc on est à Bruxelles, mais il y a les Juifs juste en bas avec leurs petites roues flaquettes, il y a les Arabes en face où je les vois juste arriver avec des voitures, prendre des gens, partir à la mosquée et revenir. Mais moi, c'est ces gens-là que je veux toucher. Je veux dire, des gens voilà, comme Thomas, Lynn... Comme plein d'autres personnes, je les vois déjà dans ma vie de tous les jours. Et j'avais une réflexion avec Lisa bien avant les attentats. Je disais, Lisa, c'est quand même bizarre. Bon, moi, je suis d'origine liégeoise, ça fait 10 ans que je vis à Bruxelles. Ben, je ne connais pas un arabe, je ne connais pas un musulman. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Lynn est à moitié marocaine. Un dixième de la population est d'origine arabo-musulmane. Et j'avais ce constat en disant, bah, tiens, j'ai rencontré des Allemands, ma femme est franco-allemande, moi je suis italo-belge liégeois, enfin, on est vraiment dans la mixité, on ne peut pas nous reprocher d'être... On n'avait pas touché cette frange. Et donc, c'est vraiment cette frange. C'est là où je trouve que des initiatives telles que ce soit Salle, que ce soit autre chose, la rue du Sceptre, très bien, mais pas la rue du Sceptre entre gens qui se connaissent.
Mais oui,
la rue du Sceptre avec l'autre.
Ouais.
Mais comment aller trouver ces gens qui, effectivement, se renferment dans leur communauté parce qu'ils ont peur, justement, parce qu'on en revient à la peur. C'est là où vraiment il y a un travail à faire, où moi je suis adressé. Et la seule chose au jour d'aujourd'hui où j'ai vu qu'on se transcendait tout, ben, je vais vous dire, parce que j'ai été deux fois président du bureau, mais malheureusement c'est une chose qui est vue comme un truc chiant, mais c'est les élections. C'est les élections où c'est vrai que vous voyez défiler absolument tout le monde parce que c'est obligatoire. Et donc vous voyez vraiment défiler jeunes, petits, arabes, rouges, jaunes, bleus, enfin, tout ce que, tous les partis, tous les délégués. Ouais. Mais les élections, ça encore, je crois vraiment, c'est une unité énorme de pouvoir rassembler les gens autour d'un même projet. Donc est-ce qu'on va en trouver d'autres?
Oui. Mais, vas-y, on a compris.
Voilà.
Tu veux dire quelque chose, madame la présidente?
C'est ce que j'avais noté aussi, quand il y a une nécessité de faire le choix délibéré d'apprécier. Oui. Mais comment tu amènes, parce que tu ne peux pas amener, tu peux pas, il n'y a pas d'injonction possible. Donc, comment tu crées ce cadre qui fait que les gens prennent ces décisions? Comment tu invites les gens à venir dans ce cadre, déjà à la base?
Mais d'abord, tu ne les invites pas directement. Moi, la personne qui vient à l'esprit, c'est ma femme. Donc, ma femme, notre rue, Sentier des Cinq Bonniers, c'est un crédoiseau. Si vous passez dans cette rue, vous avez toutes les strates sociales que vous pouvez imaginer. Ça fait des années que ma femme dit bonjour à tout le monde. Mais c'est le début, d'accord. Au Colruyt, même à un chien avec un chapeau, elle dit bonjour. Donc, mais c'est tout aussi con que ça. Hein? Alors, est-ce que nous le faisons tous, toujours? Voilà. Hein? Si vous voulez, il y a un petit truc, on a fait ça après l'attentat, c'était « Je parle avec mon voisin ». Si vous tapez ça sur Facebook, vous allez voir un petit film, et des Vainés qui dansent dans le TGV. Bon, parce qu'on leur a parlé. Bon. Et donc ça me paraît une première chose. Mais là, on n'a pas besoin d'être dans plus que ça, quelque part, mais de témoigner de manière systématique qu'on dit bonjour, qu'on écoute, parce que quelque part, l'écoute, tiens, cette dame s'intéresse à moi, puisqu'elle m'écoute. Et voilà, c'est ça pour moi, ça part de là. Je ne pense pas que ce soit, en fait, plus compliqué que ça.
Mais ce qui est interpellant dans votre démarche, c'est la volumétrie. Moi, j'ai pratiquement essentiellement...
La volumétrie.
Oui, moi, j'ai pratiquement essentiellement travaillé dans le conseil. En ce moment, parfois, à quoi servent les consultants, bon, si tu m'en dis.
Lisez le livre, No More Consultants.
Mais ça sert quand même à quelque chose, c'est d'écouter les gens.
Ouais. Mmh.
Et en étant une femme, c'est beaucoup plus facile.
Ouais.
Bien sûr, mais bien sûr. Les hommes ne se parlent pas entre eux.
C'est rapidement les problèmes de votre
client. Non, je suis d'accord. Non, pas tout ça qu'on dit. Je comprends bien le mouvement dont vous parlez d'un point de vue humain. Voilà. Ce qui. Voilà, les questions que ça m'arrive, c'est que dans un one-to-one, donc en gros, si vous voulez faire bouger les choses dans une entreprise, après on peut faire des théories sur la conduite du changement, il faut juste bien cibler les personnes qui ont le pouvoir de le faire. À ce moment-là, travailler la personne, gagner sa confiance et essayer d'embarquer dans quelque chose. Et donc là, on est dans une minorité qui va faire bouger une majorité. Parce que la minorité est censée avoir un pouvoir formel. Mais vous êtes dans un mouvement différent, puisque en l'occurrence, il n'y a plus de hiérarchie. Donc c'est pour ça que je parle de volumétrie. Donc le one-to-one, moi je vois très bien comment ça marche. Le small group ou big group, c'est là que c'est peut-être plus compliqué à comprendre. Mais ce n'est pas des doutes de ma part.
Mais c'est des questions. Et est-ce qu'on a les réponses? Non. On cherche comme vous. Hein. Bon, nous sommes tous dans la recherche de ça. Mais il y a ici quelqu'un qui a eu cette expérience. Le livre de Lalo, on ne va pas revenir sur le livre de Lalo. Tout le monde connaît ce bouquin, je suppose. Reinventing Organizations. Hein. Bon, voilà. Le leader conscient, bien entendu, on l'appelle de tous ses voeux. Bon. Ça, c'est évident. Mais le leader conscient, il n'est pas partout non plus. Pas encore. Donc il y a du travail. Maintenant, il y a autre chose, c'est que comment arriver à ce que le leader prenne conscience quelque part. Et c'est marrant, ces deux organisations, grosses, je ne sais pas dire qui, mais Ils disent, voilà, on a des consultants très forts qui arrivent à la transformation de l'équipe dirigeante. Mais l'équipe dirigeante ne voit absolument pas comment mobiliser toute l'organisation. Et c'est là où, franchement, là où nous sommes sûrs de ce que nous avons à offrir. Franchement. Franchement. Nous pouvons... Oui. Ça, oui. Si, en effet, il y a des leaders qui disent « Ça y est, on a compris, mais comment on fait la suite ?» Oui. Et je dirais, moi, que c'est ça. C'est qu'on a un comment sur la mobilisation collective. Hein? Et ça, oui. Et 10 ans après, c'est 10 ans qu'on met à jour le process, comme s'il s'agissait de construire des bagnoles, avec la même rigueur. Hein? Donc il y a une équipe qui ne fait que ça.
Est-ce que tu peux justement élaborer un peu sur l'effet boule de neige alors ?
Alors oui. Merci pour ça. C'est-à-dire que ce que nous avons, ce sont des cartes de transfert spontané. Voilà. Alors, c'est pas dans le domaine de l'industrie, mais nous pensons que n'importe quel groupe humain peut être une communauté. Nous sommes... ces cartes ont été établies, mais elles sont connues ailleurs. Mais dans notre cas, elles ont été établies au Congo. Une équipe de facilitateurs, à propos du SIDA, une équipe de facilitateurs partage cette façon de faire. Après avoir visité des assos, des quartiers, etc., un premier cercle, 12, disons, des gens qui mènent cette approche dans 12 communautés. Mais voilà qu'au festival d'échange, après 2 ans, 3 ans, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent de toutes sortes de communautés avec lesquelles, disons, le contact princeps n'avait pas eu lieu. Et ils ont reconstruit, hein, si vous voulez, le partage spontané par ces communautés avec d'autres communautés, 3 générations. Donc, ceci est trop important, il faut que je partage. Je suis à Bukavu, ça c'est pas... Donc, vous avez une véritable... comme toile d'araignée, comme ça, qui voilà, évanescence. Nous avons d'ailleurs travaillé au Mali sur le passage à l'échelle de la compétence face au SIDA, sur une hypothèse qu'on n'a pas pu vérifier, parce qu'un officiel du ministère de la Santé a détourné les fonds, et donc c'était terminé. Mais on était sur l'hypothèse une communauté sur 3. D'accord ? Les 2 autres vont être infectées par celle-là. Nous disons, il y a une épidémie positive. Et donc là, on n'a pas pu le vérifier. Mais à Bukavu, passe là un jour, je rencontre les gens qui ont participé à cette façon de faire, et le président de l'association des vendeurs de chaussures de deuxième main. Je ne sais pas pourquoi on met les chaussures aux mains, mais enfin, non, c'est une autre affaire. Et donc... dit, docteur, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin des experts qui venaient du froid, on pouvait quand même faire beaucoup de choses nous-mêmes. Et c'est ça. Et donc, c'était trop important. J'ai payé le billet sur Chabunda, c'est pas à côté, parce qu'on a un autre groupe là-bas, et j'ai partagé ça là-bas, je l'ai fait moi-même. Et donc, alors on dirait, oui, mais la qualité. Eh bien, ça s'arrête quand la qualité n'est plus là. Donc, il y a ce transfert, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis plop, c'est terminé, parce que au bout, bien sûr, l'énergie qui est transférée n'est plus suffisante pour le changement. Voilà. Mais ça, ça a été fait l'objet d'une thèse de doctorat, etc., en psychologie, etc., en psychologie appliquée, machin. Clairement, c'est le transfert spontané, il fonctionne.
Quand il vient par le bas. Moi, j'avais envie de vous répondre parce que...
Oui, vas-y.
La candeur, ouais, et la non-candeur. Ouais. Je crois à 2 choses, c'est que la candeur est vachement plus puissante que la non-candeur. Ouais. Parce qu'elle gagne, parce qu'elle s'impose, parce qu'elle a défini de l'autre, elle le rend minoritaire très rapidement. Et deuxième constat, c'est que le collectif est plus fort que le one-to-one. Ouais. Et je pense que ceci ne fonctionne que quand les choses viennent par le bas, c'est-à-dire quand le besoin de changer est ressenti, entre guillemets, par le bas, et que les choses montent. Les équipes dirigeantes qui sentent le changement, c'est nécessaire, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Toutes les révolutions se sont faites quand il y a une rencontre entre ce qu'on appelle la condition subjective du leader et la condition objective, c'est-à-dire qu'il y a une faim. On a envie de changer parce qu'on a envie de manger. Si ces deux ne s'opèrent pas, le changement ne vient pas. Donc le collectif est indispensable.
Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, dans l'histoire, les exemples où ça s'est passé sans violence sont minoritaires par rapport aux autres. Donc, que la base, à un moment donné, fasse des choses, je suis d'accord. Après, la question, c'est comment éviter la violence. Et je suis personnelle, mais je pense que les exemples de changement où la colère a prévalu, mais suffisamment longtemps pour que les types ne se détruisent pas. Voilà, donc c'est pour ça que je pose la question.
Mais c'est pour ça que je dirais. Ah bon, ça c'est un point de vue personnel, disons, tout à fait. Je dirais, l'épidémie, vous vous souvenez, l'épidémie de compétence face au sida. Ici, c'est, disons, c'est l'épidémie de la compétence pour la vie. Et le pari, mais ça dépend de nos décisions individuelles à chacun d'entre nous, le pari est que cette compétence se propage plus vite que la violence. C'est ça le pari que nous avons. Et sinon, nous allons à la guerre. Ça, aujourd'hui, ça devient un peu trop clair. Donc voilà, qui va gagner, on n'en sait rien, mais au moins, on peut travailler. Ça, c'est en tout cas mon éthique. C'est ce que je fais, et ça me passionne. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça me paraît plus porteur que de signer des trucs sur Havas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas signer, mais en tout cas, agissons. Agissons là où nous sommes, et c'est quand même étonnant. Nous avons dans la rue du Sceptre quelqu'un qui est un décideur à la FAO. Il dit, mais tiens, ce truc-là, je peux... Hein, etc. Et donc, j'ai appris quelque chose, c'est que l'évidence, et là, c'est trop clair aujourd'hui, l'évidence n'influence pas la politique.
Non.
L'évidence n'influence pas la politique. Ce qui influence la politique, c'est la transformation du politicien. Oui, mais pour ça, il doit trouver des terrains. Il faut l'immersion, comme dont Célissa a donné un exemple.
Je vous en prie. En fait, dans tous les systèmes de changement, la nécessité fera la loi. C'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience de l'individu. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites l'écoute. C'est primordial pour pouvoir comprendre comment l'autre raisonne finalement. Et ça me fait penser, bon, moi j'ai du sang irlandais, mais quand il y avait la guerre en Irlande du Nord, avec mon cousin, on avait 14-15 ans, et on se disait, on attaque les Irlandais, tout ça, il faut y aller. Si à ce moment-là, bon, on aurait dû être un peu plus âgé, mais si à ce moment-là, il y avait eu des prédicateurs comme il y a eu ici, on serait peut-être partis comme deux innocents,
Exactement.
Et pris dans un engrenage. Peut-être qu'on serait vite, on aurait eu la trouille comme beaucoup, je pense, des jeunes qui sont partis en Syrie ont la trouille. Mmh. Et puis maintenant, ils sont paumés, mais ils sont le. On est toujours le résultat de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un raisonnement, il y a une communauté, et ils sont dans le bon par rapport à eux. Et même objectivement, ils sont dans le bon. Et c'est cette écoute-là, c'est cette difficulté que nous avons, justement, dans la peur de l'autre, fatalement, puisque bon. Ouais, d'ailleurs, on dit des terroristes, c'est épouvantable comme terme.
Exactement.
Hein, il y a évidemment des crapules qui étaient des crapules ici, donc on voit aussi, il ne faut pas faire dans le mini oui, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des crapules. Mais tant qu'on ne les écoutera pas, tant qu'on ne comprendra pas les paradigmes qui ont fait qu'ils agissent de cette manière, eh bien, c'est pas en les mettant dans les prisons. Voilà, ce que je trouve extraordinaire, ce sont les centres de déradicalisation. Le jour où quelqu'un pourra déradicaliser quelqu'un parce que en le mettant en prison, que sais-je, moi, avec ou le fait. Non, ça, au contraire, on va le radicaliser davantage. Donc c'est voué à l'échec d'avance. Comme beaucoup de politiques d'ailleurs. Hein. Vous savez, il y a 6000 personnes dans des centres fermés. Il y a 150 000 illégaux ici. Dont 100 000 dans Bruxelles. pour bien faire, s'il fallait écouter, comment il s'appelle encore notre
secrétaire
d'État, oui, voilà. Il faudrait mettre les 150 000 dans des camps. Ça vous fait penser à quelque chose quand même. Bon, et là, il y aurait une logique, mais maintenant, c'est 6 000 personnes qu'on met dans des camps, ça ne sert strictement à rien. C'est pour...
On communique.
Oui, c'est une communication, c'est du marketing, mais du très mauvais marketing. Là, il n'y a personne qui pense à ça. Enfin,
si, si, c'est marrant parce que hier, une conversation de quelqu'un qui est très impliqué dans les prisons, il dit, vous devez venir dans les prisons. Et travailler avec les matons en particulier. Et aussi aux relations entre prisonniers dans la prison. Il dit, nous, vous nous invitez, on vient, c'est clair. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Et c'est quelqu'un, bon, on ne sait pas, on verra comment ça va. Hein, bon, mais au moins, lui, il connaît, il a beaucoup travaillé à la prison, il dit, vous n'imaginez pas dans quelle pauvreté ces gens se trouvent en termes d'accompagnement.
Hein. C'est souvent des pauvres types.
Ben oui.
À l'époque, je suis à l'origine des bracelets pour les détenus. Yeah. On est allé pas mal à Saint-Gilles pour discuter avec tout ça. Et puis, ils nous servaient à table et tout. Parce que bon, il y a des cuisiniers là-dedans aussi. Hein. Mais chaque fois, il dit, j'ai fait une bêtise. Et puis, ils sont là-dedans. Et puis, mais quand ils ressortent, c'est...
Ils sont autre chose. Ils ont été transformés. Oui, enfin voilà. Je ne sais pas si on sent que peut-être il est temps, hein, parce qu'il est 35 ans.
Il est temps.
Petites annonces.
Oui, il y a peut-être des petites annonces, mais moi je me dis, comme on est très égoïste et qu'on fait le salat à l'envers, tlas, et qu'on a envie de transférer et d'apprendre de vous. Je me demandais si on avait quand même 5 minutes éventuellement pour savoir justement qu'est-ce qui. Un petit peu la question. Mais qu'est-ce qu'on ramène après cette soirée, qu'est-ce qu'on ramène chez nous, et est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment, ou quelque chose où vous dites, tiens, ça j'ai envie d'explorer.
Moi, je peux déjà vous dire que je me dis que j'ai raté l'occasion de demander à Madame Galland qu'est-ce qui vous fait rêver.
Mais oui.
Je dois bien vous avouer que je n'ai pas la réponse sur comment j'aurais pu aborder
ça. Elle a bien compris.
Elle a répondu dans son livre.
Oui, vous êtes.
Tout était dans le titre.
Au-delà de la boutade, c'est vraiment. Allez, je suis vraiment persuadé que si j'avais réussi à lui parler de cette façon-là, on aurait pu peut-être faire quelque chose. Mais inversement, je me dis, et ça rejoint un peu la question de Claudine, comment faire pour qu'elle soit réceptive à cette question ?
Est-ce que toi, tu étais réceptive ?
Écoute, tu sais, honnêtement, je lui ai par exemple proposé de faire une étude qui pouvait l'aider à préparer, comme l'a fait Johnny Tace pour la Poste, le rail à la libéralisation. Et on avait les moyens de le faire. Et vraiment, je suis venu en lui disant, voilà madame, on peut faire cette étude pour vous, ça a marché pour la Poste, ça devrait marcher pour le rail. Mais regardez, vous n'avez pas bien compris, monsieur Lenoux. Ça, vous essayez de marcher sur les plates-bandes, ça c'est du politique que vous voulez faire. Circuler, il n'y a rien à voir. Et je dois dire que j'étais paumé.
Est-ce que vous avez été vous promener dans la région d'où elle vient ?
Moi, je pensais à la même chose.
Je vous avais dit, vous avez déjà compris une bonne partie du problème que vous avez.
Oui,
vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Dis, parce que, bon, mais
c'est vrai.
Mon beau-frère allait à la chasse avec son père. Et il y a une admiration pour cette dame, à Jurbise. Hein ? Il dit, madame, moi j'aimerais bien voir, est-ce qu'on peut aller voir votre commune ? Parce que tout le monde en dit tellement de bien. Est-ce qu'on peut aller ensemble ? Et on ira boire un verre. Non. Car ? Non, mais tu posais la question. Donc, voilà. Oui, parce que là tu établis un rapport humain. Parce que c'est quelque chose dont elle est fière. Elle est fière de ça.
Mais là, tu retombes dans le Machiavel.
Non. Non. Non.
Avec la politique.
Mais pourquoi ? C'est une personne humaine. C'est pas parce qu'elle est politicienne qu'elle n'est plus.
Mais elle est humaine, c'est ce qui nous rend humain, mais en même temps, si tu allais voir sa région, effectivement, tu l'amadoues, mais dans, est-ce que c'est dans un but un peu.
Mais non.
Sur ce
qu'elle est. Mais oui. Oui, je crois. Non, non. Il y a pas de. Bon, on répond à la question de Célicia. Allez, mais rapidement, sinon on est là jusqu'à minuit. Allez. Oui, oui. Qu'est-ce que vous ramenez, vous qui êtes parti et revenu, qu'est-ce que vous ramenez? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas voulu.
Non, beaucoup de questions, je me réjouis de lire. Ouais. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais en général, je ne comprends pas tout comme tout le monde. Alors, je vais d'abord réfléchir, parce que c'est plus pénible. Et puis, à mon avis, je vais revenir.
Ah ben, très bien.
Je ne sais pas où. Mais j'ai noté juste deux, trois trucs sur ce que j'ai été chercher.
D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Oui,
belle rencontre.
C'est à moi que tu
dis. Oui.
Comme vous voulez. Moi,
j'ai mais moi, chaque fois que je t'entends, ça me donne de la jeunesse.
Monsieur, s'il vous plaît, juste en quelques mots.
Moi ?
Oui ?
Oui, non, mais on va
tous y passer. Ce que je tiens, c'est que si nous traversons, si nous trouvons la force de traverser notre peur, nous pouvons mobiliser nos énergies à quelque chose de, d'utile, en fait.
Merci. Vous avez fait ?
Ah, je fais ça dès que je peux.
je retiens l'appréciation. Moi, j'ai l'habitude de dire que j'essaie de pratiquer la gratitude, c'est-à-dire remercier des petits cadeaux en fait qu'on reçoit à chaque instant de sa vie, et si on est suffisamment ouvert, ben, on les voit. Et je retiens l'appréciation, donc c'est important. Mais la pratique est davantage.
Voilà. Pour moi aussi, c'est la force de l'appréciation, de voir en chaque personne l'humain et les qualités. Mm-hmm. Donc chaque personne a des qualités, les voir prioritairement.
Même galant.
Pour moi, c'est différentes choses. Une des choses qui m'interpelle, c'est quand je travaille de temps en temps aussi comme facilitateur à l'entreprise et travaille avec des décideurs. Donc, c'est comment amener justement cette transformation dans toute l'organisation pour les travailleurs.
Moi, comme madame, j'aurais besoin d'un peu de recul d'abord. Mais une chose est certaine, c'est que, à mon avis, je vais faire la formation. Donc, voilà. Et pour approfondir,
j'ai noté. Bienvenue.
Tu as laissé tes coordonnées sur la petite feuille qui s'en encore.
Bon, alors, tant qu'on y est, s'il vous plaît. Veuillez laisser votre nom et votre adresse mail, et nous allons remplir votre inbox d'un seul mail avec toutes les possibilités de suivi. Voilà. Comment ?
Dans
une formation.
Oui. Et donc, il y a une feuille qui
n'est plus
normalement qui est.
Un week-end. Il y a deux choses. Il y a une exposition, un échange, un partage. Du vendredi soir au dimanche après-midi, un week-end, c'est tous les trois mois en gros. Ouais. Et il y a autre chose, alors plus approfondie, alors. Et ça c'est par Skype, un coach et trois personnes qui appliquent les différentes étapes dans des milieux concrets. Ouais. Donc là on est à l'étape suivante. Donc ces deux choses sont à faire.
Je vais m'inscrire à ça.
Ah bon, vous êtes bienvenue. Madame la Présidente du Sceptre.
Alors, moi ce que je retiens, donc le fait qu'il y ait des forces en chacun de nous, quelque chose, mais m'exercer à les voir, chez chacun, mais vraiment chez chacun. Et donc du coup, laisser tomber certaines hypothèses. Enfin, pas les laisser tomber, certaines. Et alors aussi, je reste un peu troublée par savoir comment mettre en présence justement ces différentes compétences de gens très. Ça reste
Un mystère.
Il faudra essayer.
Oui, c'est ça. Il faut mettre en pratique. Chercher.
On a parlé beaucoup de sida, de maladies, de contagion. Et moi, je venais complètement blanc ici. Je ne savais même pas qui j'ai rencontré ce soir. Et votre méthode, je l'ai perçue comme une maladie, mais positive. Qui s'étend positivement et par elle-même. On verra les niveaux, etc. C'est un truc bon. Et aussi du plus petit vers le plus grand et à tous les niveaux de toutes les pas hiérarchie mais structures et surtout appliqué à soi-même et c'est ce que je vais probablement commencer à faire.
Merci. Anita.
Continuez à rêver. C'est vraiment c'est important. Je n'ai à devenir ce rêve et se focaliser là-dessus mais à chaque moment au lieu de il faut se concentrer sur le problème.
Ouais. Lisa.
Moi, j'espère faire le rêve de la rue du Sceptre en vous invitant, j'espère. On va pouvoir le réaliser très bientôt.
J'aime beaucoup le rêve aussi pour ouvrir, mais peut-être que c'est trop pour certaines personnes, je pense. Peut-être, oui, voilà, c'est une question de sémantique. Si j'attaque tout de suite avec le rêve, on va me prendre pour un rigolo. Oui. Par contre, je peux parler objectif, je peux parler... oui, il faut y aller par petites touches pour arriver au rêve. Un truc que j'envoyais beaucoup avant, c'était... mon fils avait, pour la fête des pères, je crois, fait une baguette magique d'Harry Potter. Et je donnais la baguette aux gens et je disais, voilà, tu as la baguette ? Qu'est-ce que tu veux ?
Mais oui, mais là on est. Voilà. Mais on l'a fait justement.
Tu veux autre chose ? Hein ? Oui. Il y a des par petites touches, je pense.
Merci.
Voilà.
Julien ?
Et moi, Jean-Louis, je te dirai la phrase, j'en ai conclu par la phrase qu'il y a dans mon pantalon. Je ne vais pas l'enlever, mais c'est dans mon pantalon. C'est des jeans de Jacob Cohen. Et ils ont cousu dedans une phrase, et c'est « Go to bed with a dream and wake up with a purpose ».
C'est beau. Oh ! Là, on va tous bien dormir.
Je vais pas enlever mon pantalon parce que vous
prenez... Non, en fait... Oui, on veut vérifier, là.
Ça me fait penser un peu à ça.
Madame.
Je choisis bon papa.
Un défi trouble schizophrénie. Je suis persuadée que vous avez raison.
Mais
non, je suis persuadée que Dostoevsky a dit « la beauté sauvera le monde », donc la candeur sauvera le monde. Mais est-ce qu'on arrivera à la réactiver ? Je suis persuadée que vous avez raison et puis j'ai un point d'interrogation. Donc ça me met dans une situation de schizophrénie.
Mais une tension positive.
Oui.
Je souhaite que vous résoudrez la schizophrénie. Je vous souhaite. Merci.
Moi, je serai moins politique que mes deux prédécesseurs. Je dirais la puissance de la démarche inductive, de la capacité de mobilisation par la bienveillance.
Merci.
J'entends que réveiller les compétences repose sur un dispositif qui rend possible un dialogue bienveillant. Et à partir d'une expérience que j'ai eue en prison, je me dis qu'il faut absolument lutter tous les jours en prison contre la dématérialisation des rapports dans les nouvelles prisons, à travers un véritable prison club, qui est la chose la pire aujourd'hui dans les nouvelles prisons. Et qui rend impossible
le dialogue, l'interaction,
la reconnaissance des compétences de ces gens qui sont là pour une raison, mais pas pour leur amour. Ah.
Merci.
Je rebondis sur la bienveillance. Il faut commencer par écouter positivement. Et donc, écoute positive sans préjugés, sans jugement. Or, on est dans une civilisation occidentale, parfois beaucoup de jugements.
Alors, moi, je vais faire une réflexion de maman que j'ai toujours eue. Je pense quelque part, ça correspond assez bien à ce que vous prenez. C'est que, en tant que parents, nous, on a encadré le rêve de nos enfants. Ouais. Et je pense quelque part que ça engendre un changement de société. Ouais. J'ai deux enfants qui sont en train de mener un projet qui touche au même système qu'eux. je ne les ai pas du tout vu arriver sur ça. Je me suis dit, tiens, laissons faire, merveilleux, ils sont épanouis là-dedans et on va voir ce qui va sortir. Mais je crois que c'est ça, notre rôle. Parce que ce que nous n'avons pas pu réaliser, tandis la génération qui suit, elle est là, il faut avoir confiance. La suite, ils sont là pour prendre leur l'air.
D'abord, j'ai du mal à l'aise là, parce que des moments, je me demande qui va demander le droit d'auteur à l'autre. Non, mais toute mauvaise plaisanterie mise à part, j'ai eu trois vies, la vie de tout le monde, donc de formation, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai eu la bonne idée, où mon père a eu la bonne idée de mourir à 50 ans. J'avais 27 ans, et je suis devenu chef de groupe à ce moment-là. Bon, je ne suis qu'un bel chef d'entreprise, et j'ai eu, j'ai de 30 ans à 50 ans, j'ai été administrateur délégué du groupe Louis Deleuze. Donc c'est Cora, c'est Match, c'est etc. Donc quand j'ai rendu les armes, parce qu'il y avait un changement d'actionnaire, c'est le capitalisme, un changement de majorité, pardon, uniquement, c'est les mêmes actionnaires. Donc j'avais 50 ans, mais je reviens à ce que disait mon voisin ici, ça, j'étais très sensible à ce qu'il disait tout à l'heure, et à ce que vous écrivez, que vous avez dit tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est mon âge, mais fils de mai 68, que j'étais pas du tout, mais j'étais habité par la structure, la culture de la décentralisation. Mais très fortement. Et tout le groupe Cora s'est construit comme ça. Je parle de Cora Belgique, et à l'époque, Carrefour aussi, et Leclerc aussi, surtout qui étaient mes maîtres à penser. Et ça marchait extraordinairement bien, et ça allait exactement dans le sens de ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'un Cora, c'est 35 rayons. 35 rayons, c'était 35 mini-entreprises. Donc c'était le bordel, parce qu'au départ, il y a le chaos, et le chaos, il faut l'organiser après. Donc, je répondais indirectement à vous tout à l'heure, parlant de la violence, peut-être que vous alliez un peu vite dedans. Je dis oui à l'écoute de la base, mais un oui définitif, et encore maintenant, j'ai gardé cet esprit-là. Mais par contre, il faut arbitrer, parce que sinon, c'est le pouvoir. Bon, et désolé de le dire, quand même, diriger, c'est parfois contraindre. Alors, c'est peut-être là le plus difficile, c'est effectivement de faire passer, parce qu'on est quand même une dynamique et un mouvement. Ouais. Et le temps est mon patron, avec un grand T aujourd'hui. Au soir de ma vie, j'ai 72 ans, donc je veux dire qu'aujourd'hui, ça reste le temps, c'est vraiment mon patron. On était tellement habité par ce que vous disiez, mais ce que mon voisin disait également tout à l'heure, ça m'a fait un écho très profond, c'est que je dirige un groupe quand même de 9000 personnes. À la holding tête de groupe, on était 11, en tout et pour tout. C'est dire la force de la décentralisation, ça veut dire que le pouvoir, on le donnait. Et alors, on avait défini ensemble une technique en parlant comme vous. Tout ce que vous dites maintenant, vous dites avec des mots différents. Mais beaucoup de choses qui étaient sensibles. Et même, je n'ai pas voulu vous interrompre tout à l'heure quand vous parliez de Trump, mais bon, accessoirement, j'étais prof à ULB. Et donc, pendant une dizaine d'années, et un jour, j'étais à Solvay, bon, marketing et distribution, et un de mes étudiants, un jour, je lui ai dit, comme ça, que le business case ne passait pas du tout. Et je lui ai dit, mais bordel de merde, break the rules. Et il a eu la mauvaise réponse, ce couillon, il m'a dit, mais encore faut-il avoir les moyens. Et ça, c'était la mauvaise réponse, parce que s'il fallait effectivement avoir les moyens pour casser les règles, on ne fait jamais sort plus. On fait jamais. Alors, c'est bien de les avoir, mais je suis resté sans voix, en fait, par ça. Mais par rapport à Trump, je dirais, aujourd'hui, il a cassé les règles, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc, très factuel, j'arrive un peu sur votre terrain en disant, on va regarder, et puis après, on prendra un jugement de valeur. Mais n'allons pas trop vite dans les jugements de valeur. Donc, l'esprit de la décentralisation, et qui passe au respect de la personne également, parce que c'est l'autonomie. Et j'ai eu une discussion, peut-être vous l'avez connu au cul, on est personnel parce qu'il est décédé maintenant, c'était François Vaxelet et Jacques Dobchy. Mais surtout François Vaxelet. Il disait, mais comment tu fais, toi, pour gérer ta boîte? Mais vous n'êtes pas nombreux. Donc, et c'est vrai que chaque fois qu'il y a un corps été quelque part, on faisait 3 à 4 fois le chiffre d'affaires d'un maxi géré. Donc, c'est un peu emmerdant, quoi, au niveau des normes. Mais il y avait une dynamique derrière, etc. Et moi, ça m'amusait. Et alors, je t'écoute, François. Il y a une chose, c'est que pour moi, la décentralisation, c'est la paternité et la maternité. On met au monde un enfant, et donc, il est, tout de suite, il a ses gènes, il a sa personnalité. Donc, le patron de Cora Raucourt, il savait que par rapport à moi, j'étais le patron à Raucourt.
Voilà.
Et parce que les problèmes de Liège, ou c'est pas pareil, se règlent à Liège. Les problèmes de Maisoncy se règlent à Maisoncy. Les problèmes d'Ornu, je connais très bien l'orinage, ça se règle à Ornu. Il y en a qui construisent des tours pour régler les problèmes. Ben nous, on a rasé les tours et on a transféré les problèmes. Il faut dire aussi qu'on a le volume d'affaires pour le faire, et 350 personnes par magasin, ça facilitait quand même aussi un peu ce genre de choses. Si bien qu'on était beaucoup plus des hommes de synthèse, Et maintenant, j'ai arrêté, parce que sinon, je vais faire une conférence là-dessus. J'ai été par hasard chez Cora, qui est avec l'actualité actuellement. J'ai été au siège de Cora à Couillé, à Gosselies, il y a un mois. Et horreur de chez horreur, Cora, parce que ah oui, alors l'accélère me disait, ah oui, alors j'ai une pour la faire des enfants, en fin de compte, parce que j'en ai 5. Enfin, j'en ai perdu un, qui est bon dans mes bras, c'est aussi un événement. Et donc, il m'en reste 4. Mais bien reconnaître que dans la décentralisation, le respect de la personnalité est extrême. Quand vous déléguez, vous donnez une vraie délégation,
oui.
Pas une fausse délégation.
Ah, confiance.
Et pas une fausse
délégation. Dans la confiance.
Si bien que dans la classe, les sales gamins, ils mettaient leurs doigts dans leur nez, ils se tenaient mal à table, etc. Il y a maintenant fait leur dire, écoutez, pour toi, Pierre, Paul, Jacques, etc. Bon, maintenant, vous vous appelez tous de l'aise. Hein. C'est votre nom de famille. Mais par contre, vous avez un prénom. Alors, le patron de Cora Oko avait un prénom, mais ils s'appelaient tous Cora. Et donc, il fallait quand même le rappeler aussi qu'il y avait une discipline de groupe et que ça comptait aussi. Sinon, oui. C'était le foutoir.
Oui.
Là, c'était... Il y a comme des éléments synergétiques quand même qu'à un moment, il faut quand même mettre en œuvre aussi.
Merci.
Ben voilà.
Alors, j'ai beaucoup plus court. Donc en fait, il y a beaucoup de grandes vérités qui ont été exprimées, je trouve, ce soir, mais des vérités qui s'avèrent quand même considérablement simples. Et c'est parce qu'elles sont simples qu'à mon avis, elles sont complexes à mettre en œuvre. Mmh. J'aurais simplement à faire un parallélisme par rapport à un grand orateur spirituel québécois qui s'appelle Daniel Sivigny, qui a écrit le livre La clé des secrets, qui expose simplement des outils pour pouvoir s'exprimer différemment, de manière positive. Mmh. Je pense que c'est un peu le message que vous exprimez ici. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir une discipline derrière pour changer la manière dont on procède. Mmh. Je voudrais simplement revenir sur une phrase que je vais essayer d'appliquer à moi-même, parler de ses rêves plutôt que ses problèmes. Mmh. Voilà, mais c'est une grande vérité, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre.
Moi, je vais être encore plus court que les deux. Ça m'a renforcé dans mon optimisme décrotable.
Et moi, ce qui a résonné en moi, c'est justement le fait que c'est important de raisonner avec le moment présent. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir appliquer assez souvent sur tout.
Madame.
Je suis une convaincue depuis très longtemps d'apprécier Tibin Coer, etc., et qui sont très beaucoup dans les coachings que je fais. Le plus dur, surtout chez les intellectuels, c'est les gens parfois oublient qu'ils ont un cœur et les sortir de leur tête pour les connecter à leur cœur, c'est peut-être le plus dur, c'est le travail le plus dur.
Voilà. Alors, n'oubliez pas, merci à tout le monde, merci beaucoup. Je vous assure que des réunions comme ça nous stimulent, nous. Merci mille fois. N'oubliez pas d'inscrire votre nom si vous voulez un mail de suivi. Il y a encore des livres, ceux qui ne savent pas le prix, c'est 10 euros. Voilà. Et merci à toi, Laurent, de nous avoir fait confiance. C'est sans doute de vos confiances. Vous avez un